Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie
se lève. Juste avant d'aller le saluer, il y a un auditeur qui nous écrit au 98985 qui nous dit: mon père va se faire vacciner parce que son employeur lui donne 200$. Et ça me fascine, ce principe-là. Ça s'est fait ailleurs. Chez Olimel, on donnait 50$ aux employés. Mais c'est drôle, le rapport avec l'argent. Je n'irai pas. On me donne 50$, je vais y aller. Ou on me donne 200$, je vais aller me faire vacciner.
Pour des ailes de poulet, tu y vas-tu?
Non.
Je te l'ai dit, les ailes de poulet, elles vont revenir, Catherine.
Non, mais avouez que c'est drôle. Hein?
C'est drôle. Donc... Mais si ça prend ça pour les convaincre, puis dans ton entreprise, tu vas être sûr pas te ramasser avec un bordel, tu dis: garde, m'a donné 200$, puis après ça, je vais m'éviter du trouble.
Je sais pas. Commentez au 98985.
C'est bizarre.
C'est particulier. Est-ce que si on vous payait, là, pour ceux et celles, je parle aux non-convaincus ce matin, là. Vous êtes non-convaincus, à date, vous n'êtes pas sûr de vous faire vacciner. Je vous donne 200$, y allez-vous? 98985 au texto. Salut, Jonathan.
200$? Je vois quand? T'as tout l'heure?
toi, t'es convaincu déjà. Tu t'apprêtes à y aller bientôt. T'es un jeune, toi, encore.
Ouais, c'est ça. Je sais pas, Jérôme a eu son rendez-vous hier, le chanceux, parce que lui, il a déjà passé 40 ans. Là, écoute, je suis encore loin. Là, je suis à 4 mois d'avoir 40 ans. Fait qu'il faut attendre 2 jours encore avant de prendre mon rendez-vous. Là.
Moi, tu sais que je suis déjà vacciné.
Ça se passe bien.
Ça se passerait bien. J'ai reçu AstraZeneca. On n'est plus sûr que c'est une si bonne nouvelle. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Non, je fais des blagues. Je suis vacciné, puis je suis très heureuse de l'être. Je trouve ça spécial, ce côté-là, le monétaire, tu sais, de dire je te donne 200, tu vas aller te faire vacciner. Je trouve ça particulier. Mais bon, là, tu voulais nous amener complètement ailleurs ce matin. Tu veux nous parler des doubles standards hommes-femmes. Tu nous amènes où?
Oui, et je vais partir de l'histoire de Marie-Ève Poux, la ministre Kakis, qui a été démissionnée hier.
Ouais.
Puis je veux partir d'elle parce qu'après ça, je veux élargir de ça. Mais partons de son cas particulier parce que elle défrait la manchette. Ça met en lumière aussi tout le dilemme de la question de la loyauté en politique. Hein, y a bien des gens qui disent: mais pourquoi François Legault et son équipe ont toléré ces écarts de conduite-là, hein, près d'une vingtaine d'employés qui ont été congédiés, des démarches devant le tribunal du travail, congédiement abusif, etc. Il y a la question de la loyauté là-dedans. On dit Marie-Ève Proulx, c'était une des partisans de la première heure de la CAQ. Elle a signé le premier manifeste de la CAQ. C'est une proche de l'entourage de François Legault. Donc, est-ce que ceci explique cela? Je pense qu'en partie, oui. Moi, je l'ai vu souvent en politique. Là, des fois, on va tolérer davantage pour des gens qui ont fait la traversée du désert, qui ont toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. Puis on se dit, tabarouette, la loyauté, c'est important. Puis on veut pas juste remercier les opportunistes et tout ça. Donc, certains vont y trouver un début de réponse. N'empêche que ce n'était pas acceptable de tolérer ce que Marie-Ève Proulx faisait subir à ses employés. Même que je te dirais que je trouve ça assez particulier de savoir qu'on la maintient dans le caucus des députés de la CAQ, alors qu'on juge qu'elle n'est pas capable de gérer un cabinet de ministre, mais qu'elle serait capable de gérer un bureau de comté.
Mais puis en plus, Jonathan, juste une petite parenthèse, ça me faisait rire hier. On lui a donné un coach là, pendant un an, puis ça n'a pas donné les résultats, mais tu la coaches comment? À être respectueuse envers ses employés, puis à ne pas crier après eux autres? C'est quoi le coaching que tu fais avec quelqu'un comme
Écoute,
ça?
Écoute, puis en plus, il lui avait donné un chef de cabinet d'expérience pour essayer de l'accompagner. Il pensait qu'elle était pour s'améliorer, mais clairement, c'était pas possible. Puis les récits qui nous sont faits sont pas très beaux.
Non.
Par contre, là, je parle de Marie-Ève Proulx.
Ouais.
On règle ce dossier-là, on dit c'est inacceptable, je mets pas en doute les témoignages qui ont été faits. Je pense qu'ils ont bien fait de la dégommer. Je prends un pas de recul puis je regarde la situation générale. C'est quoi les discussions qu'on a depuis une semaine? Il y a deux cas. Il y a eu celui-là, mais il y a eu aussi celui de Marie-Pierre Morin.
Ouais.
Et je trouve ça particulier qu'on parle de double standard dans les deux cas, mais à l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que dans le cas de Marie-Pierre Morin, on a entendu bien des gens dire si Marie-Pierre Morin avait été un homme, il n'y a pas personne qui lui donnerait une deuxième chance. On ne tolérerait pas qu'elle veuille faire un retour. La cause serait entendue, puis on n'y reviendrait plus. Et à l'autre bout du spectre, une fille comme Marie-Ève Proulx, c'est drôle, hein, mais on se rend compte que lorsqu'on parle de congédiement pour des causes de climat toxique, c'est beaucoup, 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 beaucoup des femmes. Et c'est mon ancien collègue Thomas Mulcair, je l'écoutais à la joute hier, qui m'a fait réaliser ça. Puis même avant de se parler, je faisais une petite recherche sur Internet, là, avec Google, rien de scientifique. Mais quand on parle de congédiement pour climat toxique, on parle de qui? On parle de Julie Payette.
Ouais.
On va parler de Fatima Oda-Pépin, qui était déléguée du Québec. On va parler de la directrice générale du Musée des Beaux-Arts. Ici, à Québec, on a parlé de la salle des nouvelles de Radio-Canada Québec, où, semble-t-il, c'était pas gérable avec une femme qui était à la tête de ça. Et je me dis, autant je le répète, là, ce qu'on nous a rapporté, le cas particulier, par exemple, de Marie-Ève Proulx, on convient tous que c'est pas acceptable, autant qu'on se rend compte que lorsqu'il y a des femmes en position de pouvoir, en position d'autorité, il me semble qu'on a plus facilement tendance à dire qu'elles instaurent un climat toxique, qu'elles sont pas capables de gérer leurs émotions, alors que lorsqu'on parle d'un homme, souvent, ça va être un homme qui est à son affaire, qui fait preuve de rigueur, qui exige le meilleur de ses employés. Puis, je l'ai même observé. Moi, je pensais à ça, Catherine, ce matin, en m'en venant, puis je me disais, quand j'étais en politique, là, ça papote beaucoup, là, évidemment, en coulisses. Là. Puis, lorsqu'on parlait des cabinets, de la gestion des différents cabinets, ça revenait souvent de « Ah, tel ministre ou tel ministre », puis je répéterais même pas à radio de la façon que les gens parlaient, là, c'est une ci, puis c'est une ça, mais jamais t'entendais parler de ça. Des ministres masculins. Donc, c'est comme si on avait une tolérance un peu plus faible ou une perception qui est différente. Puis je dirais même, puis écoute, je veux entendre ton point de vue aussi à toi, étant donné que tu es une femme, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est aussi vrai de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui vont observer un climat de travail de l'extérieur, que même de la façon que des employés vont le vivre de l'intérieur, de la perception de leur patronne versus d'un patron. J'ai l'impression qu'il y a un double standard dans ce sens.
Oui, il y a des doubles standards, ça c'est clair. Oui, je te suis en partie parce que c'est vrai qu'on ne jugera pas de la même façon une femme en poste d'autorité versus son comportement qui parfois peut être. Il y en a certaines qui sont plus autoritaires que d'autres, mais versus l'homme qui a le même comportement. Puis là, je parle pas d'harcèlement psychologique, là, mais tu sais, une femme, on va dire « Ah, ouais, tu sais, elle est rough, elle est intense, puis ça peut aller, comme tu dis, plus loin que ça. » Mais tu sais, puis je renverse le sujet. Une femme qui, puis ça n'a rien à voir avec un poste d'autorité, mais une femme qui va passer d'une relation à une autre, qui a eu plusieurs conjoints dans sa vie, n'aura pas le même traitement qu'un, tu sais, un homme... Hein, qui est populaire auprès des femmes puis qui accumule des conquêtes, bon, lui, il s'accroche, il est hot. Hein? Ça, c'est un coq.
Exactement.
Une femme, oh, je dirais pas le mot, mais une femme, dans certains cas, c'est une salope. Je suis désolée, c'est vulgaire, mais c'est ça. Et je l'ai déjà entendu. Alors, le double standard, il se vit à plusieurs niveaux. Par contre, lorsqu'on parle, pour moi, de lorsqu'on vient au cas de Marie-Pierre Morin, là, on embarque dans le showbiz. Jonathan, il y a bien des hommes qui en ont eu, là, même des démêlés de la justice. Puis, tu sais, la liste est quand même assez longue. Là. Puis, de toutes sortes, des gens à qui on a pardonné. Des fois, on a le pardon facile aussi. Tu sais, en fait, c'est qui, lui, il a le droit de continuer sa carrière, elle n'a pas le droit, lui, il est correct. Tu comprends? Il y a ça aussi. On dirait que ça dépend de ta notoriété. Ça dépend qui t'es. Bien, toi, ça passe, mais lui, ça passe pas. Es-tu d'accord?
Oui, puis ben ça, si on parle du monde artistique, ça va aussi aller avec le casting des gens. Je me souviens d'avoir écouté c'est Véronique Cloutier qui avait une série là de l'ombre à la lumière ou quelque chose comme ça, où elle interviewait Joël Legendre, puis il y avait une réflexion bien intéressante là-dessus, puis moi c'en est un que j'ai jugé très 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 sévèrement, puis que je continue honnêtement à juger assez sévèrement là, j'ai de la misère avec les gestes qui lui étaient reprochés, mais Joël Legendre parlait de ce fait-là en disant si dans ta vie privée, t'es pas en accord avec ce que tu projettes, avec ton casting, si tu veux, la tolérance va être moins grande. Exemple, si ton casting, c'est, mettons, bon, Éric Lapointe, là, t'es un rocker, t'es un bum, t'es quelqu'un de rough, si t'as des écarts de conduite, les gens vont plus avoir tendance à te le pardonner, à dire, ah, ben, tu sais, lui, il est comme ça, hein, puis on le sait bien, il est de même, puis ça va un peu avec son personnage, alors que si t'es quelqu'un de très, très lisse, qui a une image parfaite, un peu comme Marie-Pierre Morin avait dans les médias, mais qu'à l'extérieur, finalement, oups, il y a des gens qui rapportent que ce n'est pas ce que tu projettes, la tolérance va être moins grande. Donc ça peut expliquer en partie notre différence de perception pour les gens du milieu artistique. Mais je reviens justement qu'on se laisse sur les milieux de travail. Ouais. Tu parlais des exemples des relations amoureuses, mais je pense que dans toutes sortes de postes que des femmes vont occuper, je pense à des avocates, à des médecins. J'en parlais avec ma conjointe qui est médecin ce matin. Là. Ouais. Elle me disait, moi, j'ai l'impression que je dois toujours avoir un peu plus le sourire quand je parle aux infirmières, quand je parle même à mes patientes, à mes patients, parce que sinon, je vais être vu comme une femme qui est froide, puis qui est ci, puis qui est ça. Puis alors qu'un homme, ils vont dire, oh, c'est un médecin, oui, c'est normal, il sait où ce qui s'en va. Puis même encore aujourd'hui, on a beau parler de parité, d'égalité, qui est à bien des égards atteinte entre les hommes et les femmes, on se rend compte que il y a encore du chemin à faire.
Il y a encore du chemin, puis tu sais quoi? Puis on n'a même pas eu le temps d'aborder aussi les femmes versus les femmes. Il n'y a pas plus dur parfois qu'une femme envers une autre. Et j'en ai parlé hier avec Léa Strelitzky, c'était très intéressant notre conversation parce qu'on a aussi parlé de la beauté dans tout ça. Moi, j'ai déjà vu une femme patronne être extrêmement dure envers des collègues féminines qui étaient très belles. Il y avait l'aspect de la beauté, ça la dérangeait. et elle était plus dure envers ces femmes-là. Donc, tu comprends, il n'y a pas plus dur qu'une femme envers une autre, parfois. Je ne dis pas que c'est le cas partout, là, mais il y a ça aussi, Jonathan, qui existe.
Ben, écoute, ce que tu dis là, ma conjointe, dans la discussion qu'on avait ce matin, en se préparant, me disait exactement la même chose.
Et voilà.
Que la relation d'autorité entre une femme et une autre femme qui est une subordonnée, elle est difficile. Puis même, si tu veux aller plus loin, il y a des hommes qui ont de la misère à tolérer d'être hiérarchiquement inférieur à des femmes. Donc, c'est comme si sur tous les plans, en tout cas sur plusieurs plans, ça rendait ça, à la base, déjà plus difficile pour les femmes.
Puis, sais-tu quoi? Des fois, comme femme, là, ça nous avantage. Dans le métier que je pratique, je l'ai toujours dit, puis je le dis le plus honnêtement du monde, en entrevue, Jonathan, là, parfois, d'être une femme, ça m'avantage. Parce qu'un homme, pas tout le temps, mais souvent, va être moins virulent ou dans sa réponse, il ne me répondra pas de la même façon que si toi, t'avais posé la question. Je suis convaincue.
Je comprends.
C'est
je comprends. Tout n'est pas noir.
Tout n'est pas noir. Exactement. Bref, c'est une conversation fort intéressante. Salut, Jonathan.
Hey, bonne journée. Bye. Salut, bye.